développement des jardins partagés, et que ça fait partie de la règle. Si les jardins sont écologiquement conçus, construits, collectifs, etc., on met des composts, on fait des récupérations d'eau et on travaille sur la notion de biodiversité là-dedans. Donc en fait, c'est des politiques qui sont étroitement liées. La deuxième remarque que je ferai, c'est par rapport aux délaissés urbains de la zone de confluence. Nous, à Saint-Étienne, on a énormément de délaissés urbains. On est les champions des délaissés. Jay, qui est à côté de moi, fait tout un travail là-dessus, sur les délaissés urbains de Saint-Étienne, avec des projections, avec la direction de l'aménagement, etc. C'est très intéressant. Là-dessus, nous, on répond à la question, on fait des jardins éphémères. Il ne s'agit pas de bloquer les choses et de faire du lourd. L'idée, voilà, c'est simplement d'accompagner la transition de ces espaces et que ces espaces ne soient pas des délaissés où on a une vision un peu statique des choses, mais où les choses peuvent être en mouvement. Voilà.
On aura un témoignage tout à l'heure de ces jardins éphémères. Nadira.
Oui. Donc, bonjour à tous. Je suis Nadira de l'association Pente Verte, donc dans le premier arrondissement de Lyon, donc voisine du deuxième et pas loin de Brandy. Donc, en fait, moi, ce qui marque dans le témoignage, donc je vais reparler après, on présente notre jardin ensuite, donc je vais essayer de ne pas faire de redites. Mais ce qui marque dans la présentation des trois jardins, c'est qu'il y a un truc qui influence vraiment le fonctionnement du jardin, c'est s'il est en ville ou en périurbain. Et on voit qu'en fait, les contraintes ne sont pas les mêmes et que dans les deux, elles existent quand même. Donc en fait, dans le périurbain, la contrainte, c'est que les gens ont déjà leur jardin et qu'il faut leur expliquer l'intérêt d'avoir un jardin partagé et de vivre ensemble. Et nous, notre contrainte en ville, c'est qu'ils n'ont pas leur jardin, ils n'ont même pas leur balcon. Quand ils ont des fenêtres, elles ne sont même pas forcément au soleil. Donc ils sont vraiment en demande de terrain. Mais du coup, notre problématique, c'est qu'on a des terrains trop petits par rapport à la demande. Et là, il y a un troisième problème qui fait écho avec notre élu du deuxième qui est venu aujourd'hui. C'est l'histoire de peur. De peur. Et c'est vrai que et l'histoire du compost et autres. En fait, il y a des notions dans le jardin de spontanéité. Donc, par rapport au compostier, on est dans le vivant et le vivant a quelque chose de très spontané. La graine, elle ne se demande pas l'autorisation de pousser. Et c'est vrai que dans les villes, on a eu tous qui sommes en milieu urbain cette sensation spontanée de se dire mais j'ai besoin maintenant de jardiner, j'ai besoin maintenant de verre, j'ai besoin maintenant de retour à la terre. Et c'est vrai qu'on est face à une vraie contrainte, un vrai mur de ralentissement, alors parfois politique, parfois administratif, parfois culturel. J'essaie de faire vite, pardon Catherine. Mais du coup, voilà, faut juste dire, bon, faut arrêter d'avoir peur des gens, faut arrêter d'avoir peur de la nature, des jardins, de la spontanéité. Donc sur le compost, nous on a un compost d'immeubles, où pendant longtemps on a dit oui, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre compost? Mais les gens, oui, mais en fait les gens ils vont mettre des sacs plastiques, ça va pas être bien et tout. Et puis à un moment donné, on a une nouvelle voisine qui est arrivée, qui a pas eu peur, qui est venue, qui a dit bah, il y a de la place. Moi, j'appelle en deux secondes les compostiers. La semaine d'après, ils étaient là. On a construit le compost de quartier. Ceux dont on avait peur qu'ils mettent leur plastique, leur mégot, eh ben, comme ça ne les intéressait pas, ben, ils n'ont pas participé au compost. Les familles qui s'intéressaient, ben, ils l'ont fait. Ça a fait une petite fête entre voisins de le construire ensemble. Et juste, voilà, arrêter d'avoir peur. Parce que de toute manière, et je termine juste premier, de toute manière, sur l'histoire de ralentir les gens, c'est qu'en fait, c'est très éphémère en ville parce que les gens, ils bougent. Il y a des gens, ils ont du temps parce qu'ils sont en congé maternité, d'autres parce qu'ils sont en chômage, mais ça dure pas 20 ans. Donc si on met 20 ans à créer un jardin, de dire on veut être sûr des personnes et tout, les gens qui étaient motivés à un temps donné, eh ben, ils ne le sont plus 15 ans après. Donc il faut y aller. Pas 20 ans de la spontanéité.
Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Vanessa, je suis animatrice coordinatrice Nature Environnement pour la MJC PRH. Je m'occupe entre autres des jardins partagés qui se situent sur le quatrième étage, sur les terrasses du centre d'échange de Lyon PRH. Je voulais réagir à l'intervention de M. Récicot. On ne se connaît pas encore puisque moi je suis en remplacement de quelqu'un qui est en congé maternité. Voilà. Ceci étant dit, on est en train de mettre en place avec l'association du compostier une démarche de compostage sur ces terrasses qui sont par ailleurs méconnues du public, au moins des habitants. De moins en moins, mais ça vient, on essaye de faire pour aussi communiquer là-dessus. Je voulais dire simplement, moi j'ai participé au colloque sur les initiatives citoyennes et la vie jardinée de Strasbourg. pendant lequel on a vu qu'il y avait soit la démarche était ascendante, donc venait de la base et des habitants, avec les initiatives qui étaient vraiment citoyennes, soit ben, ça venait des élus dans une faible proportion des cas de jardins partagés. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est simplement, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, il faudrait peut-être voilà, qu'on entre en contact tout simplement et puis qu'on communique peut-être mieux sur nos projets aussi. Je trouverais ça intéressant. Et je voudrais terminer par une phrase que j'aime beaucoup de Thomas More qui dit « L'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. » Voilà. Donc rien n'est impossible, je suis d'accord.
On va finir par une dernière question et après on passe aux autres témoignages.
Anne-Françoise Gibert, donc c'est plutôt un témoignage et réaction. Donc je représente l'association des jardins du château. AJC, on est dans le cinquième. Je suis ravie que nous soyons aux assises du jardin, assises nomades du jardin partagé, tout simplement parce que notre jardin, qui est dans le cinquième, va déménager, que c'était prévu dès son installation et que ce n'est pas une source de... Ce n'est pas quelque chose qui nous affecte, mais plutôt qui nous renforce. Et que lorsqu'on est en milieu très urbain, il faut bien voir aussi tout ce qui est pression du foncier et comment nous, les jardiniers, on peut s'y adapter et faire en sorte que l'on puisse mettre en place donc, des jardins. Donc notre cas est un petit peu particulier puisque le jardin sur lequel on s'est installé, enfin le terrain sur lequel on s'est installé, appartient à un bailleur qui n'est pas social et qui donc a bien voulu, après bien des demandes, accepter notre présence pour un moment. Et puis on va donc prolonger cette présence dans le cadre d'une charte et on va donc investir un autre morceau de terrain qui lui appartient. Donc le terrain sur lequel on était installé, pour l'instant il y a un grand trou, puisqu'il va y avoir la construction d'un ensemble d'habitations. Et on investit un autre petit terrain en dessous. Et on va aussi investir un terrain dans un jardin public en convention avec la ville de Lyon. Donc ça, c'est un grand travail qu'on fait en concertation avec les élus, bien sûr. Voilà, sinon je voulais aussi intervenir à propos de, des habitats, enfin des copropriétés. En fait, c'est vrai qu'il y a des zones où on pourrait jardiner, c'est l'intérieur des copropriétés, mais ce n'est pas encore dans le, on va dire, dans la tête des gens. C'est-à-dire que les gens s'approprient leur propre espace, puisqu'ils en sont copropriétaires, et puissent mettre des composts. J'en ai déjà parlé dans la copropriété où j'habite, mais c'est vrai que ça met du temps. Et quand j'entends le témoignage de la jeune fille qui est passée avant moi, je me dis, bah oui, il faut y aller. Mais on a beaucoup de réticences, surtout dans les grosses copropriétés.
Merci. On passe aux trois autres témoignages. Mathieu, il demande à être assisté par ses jardinières, habitants de jardinières, c'est ça?
Oui, en fait, il y a eu le département du Rhône qui était présenté, puis après, il y a les projets de la loi.
Ouais.
Bon, non, je vais essayer de parler, mais pas trop, parce que je suis très bavard. Donc, je me représente Mathieu Benoît-Gonin, je suis jardinier et animateur. Aujourd'hui, je représente le travail qui a été réalisé pendant en fait 3 années sur le quartier du Cré de Roc. Donc, sont excusées Sarah Vandermeers qui devait présenter à ma place. Je vais simplement l'accompagner. Elle s'est foulée la cheville hier. Elle était très déçue de ne pas pouvoir venir aujourd'hui. Et Raymond Vasselon qui représentait la Mécalaïque du Cré de Roc et l'association RDD qui a porté ces projets depuis leur naissance. Quoi. Donc, après. Ensuite, après. Bon. 5 minutes. Très, très dur. Ouais. Alors, pourquoi on vous présente quelque chose qui s'est passé à l'échelle du quartier? Parce que c'est à cette échelle qu'on travaille. On travaille beaucoup avec la dimension humaine et on pense qu'à l'échelle d'un quartier, les réseaux s'élaborent plus facilement. Donc c'est une histoire de jardin éphémère, de jardin nomade, puis de jardin pérenne. Ici on a une photo, alors tout est mélangé, ce sera des commentaires sans vraie progression, c'est un peu chaotique, mais c'est pas grave. Là on a le premier jardin éphémère qui est apparu, ça a été impulsé par le conseil de quartier et un petit groupe d'habitants. Et en fait, on n'était pas dans la méthodologie, moi ce que j'appelle passe-jardin avec la concertation, etc. Là, on a constitué un noyau d'habitants, en fait, pendant des phases moi, de ce que j'appelle le chantier ouvert. Donc là, on a construit avec des structures métalliques et on a recyclé de la pierre, enfin, des immeubles qui avaient été cassés, on a fait avec de la brique de récupération, on a rempli ces gabions et on a fait des structures de culture circulaire qui ont énormément de succès, parce que d'une part ça a très très bien poussé dedans, les légumes et les fleurs, et c'est un lieu qui avait beaucoup de convivialité. On est à peu près, pour moi, sur le même ordre que des jardins comme Marigny, sur des secteurs un peu similaires. On est sur des zones où on a des terres polluées, donc on est obligé de cultiver hors sol. C'est pour ça que vous ne voyez pas de culture au niveau du sol. Après, il y a toutes les fleurs, tout ce qui est, donc, enfin, qu'on ne mange pas, cultivé au niveau du sol. Donc dans ces jardins, on a la pédagogie, on a des moments de convivialité, on a des moments de chantier. Je le redis, la phase de chantier ouvert, c'est un moment très très important où on s'approprie en fait le lieu en fournissant un effort physique même sur ce lieu. Bon, pour moi, ça c'est très important pour que le groupe puisse se constituer, se solidifier, que les gens participent aux aménagements. Donc là, vous avez vu en phase de construction le jardin de la Libellule, le jardin des Joyaux, qui est en bas de la colline du Crêt de Roc, dans impasse des Joyaux, dans un coin tranquille, qui est jouxté de délaissés industriels très grands. Donc là, vous voyez, en fin de saison, au mois de septembre-octobre, l'objectif, donc, c'est quand même de produire des légumes, et puis on travaille sur les notions de biodiversité, puis d'autonomie alimentaire. Donc on plante des aromatiques, on plante des fleurs. On a eu un partenariat étroit avec les serres municipales pendant 3 ans. Là aujourd'hui, ils sont en train de reconstruire les serres. Ils nous ont fourni des végétaux, notamment de nombreuses fleurs. Et les légumes, on est en quasi autoproduction. Puis bon, moi, en tant que jardinier accompagnant, je fournis aussi quelques légumes puisque je travaille avec Terre et Humanisme et on travaille là-dessus. Enfin, je ramène des plantes de Terre et Humanisme. Parce qu'on travaille sur les bases de l'agroécologie. Retour au jardin Salingro en fin de saison. Donc vous voyez que les légumes ont vachement poussé. Je remercie la personne qui a parlé de la peur tout à l'heure. C'est très 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 important ce que vous avez dit. Quand on a fait ces jardins-là sur ces zones, tout le monde nous disait vous allez être vandalisé, vous allez vous faire casser, vous allez vous faire voler vos légumes, on va tout vous brûler. C'est pas vrai. On n'a jamais eu de vandalisme. On a des gens d'origine, bon, c'est des pays de l'Est, il y en a eu beaucoup sur le quartier du Crêt de Roc, hein, qui sont venus chercher quelques légumes pour manger. Et donc, la phrase de tout à l'heure, je plante des tomates pour que tu les ramasses, moi, ça me voit parfaitement dans cet état d'esprit-là. Mais quand même, on ramasse des légumes et on les partage. La dernière réalisation, donc il y a eu une gradation sur les 3 ans. D'abord un jardin nomade éphémère, le jardin Salingro, qu'on a déplacé. Avec le concours des services de la commune, là, qui nous ont bien aidés pour faire ça, on a démonté les gabions, on les a mis dans des big bags et on les a transportés pour les reconstruire sur un espace qui est une petite place, un petit square chauvet. En fait, il n'y avait rien. Il y avait des gens qui fumaient des clopes et qui discutaient. On a proposé de déménager le jardin et de l'installer sur un espace public. Donc là, il n'y a pas de clôture, tout est ouvert. Là, pareil, on a eu un peu peur. Attends, si tu peux revenir sur le square Chauvet, je ne prendrai pas trop la parole, mais on a eu un peu peur au départ, on a cru que tout allait être cassé. Et même moi, avec Raymond, bon, on se disait, oulala, là, on prend des risques quand même. Hein. Et en fait, rien. On nous a volé 3 pensées à l'automne, quand on a mis les fleurs à la rotation de culture de l'automne. Là, vous voyez, ben, c'est cet automne. Les légumes ont très bien poussé, il y a eu une forme d'autogestion qui était prise en charge par des mamans d'origine turque qui sont en fait juste à proximité de ce jardin-là et elles se sont occupées de l'arrosage, de l'entretien des plantes. toujours avec le même groupe d'habitants qui évolue, hein, comme chez Brandy, qui évolue en fait aux fonctions des histoires et des saisons. Mais on a un noyau dur qui reste ouvert. Et voilà, donc le groupe, il n'est jamais exactement le même. Hein, mais là, on peut dire que cet espace, il n'est plus nomade, il est plus éphémère. On est sur l'espace public, on l'appelle un petit jardin vivrier de quartier. Voilà, je laisse la parole pour l'anamorphose à Magali Rastello, qui est designer avec qui on a travaillé pour un projet particulier, culturel et artistique.
Bonjour. Donc, je vais vous présenter un projet qui a été réalisé sur le jardin de la Libellule, donc le jardin des joyaux, pardon, qui a été présenté déjà un peu par Mathieu tout à l'heure. En fait, juste peut-être expliquer un peu le cadre de projet. C'est un projet qui est né dans le cadre d'un dispositif CUX, et un projet qui s'appelle Passeurs de culture, où l'idée c'est de faire participer dans différents quartiers de Saint-Étienne des artistes intervenants avec des jeunes. Donc là, l'idée c'était donc de travailler avec Mathieu et d'allier des compétences de jardin, des compétences artistiques et de création sur un espace de jardin partagé et avec des jeunes. On a travaillé avec une classe d'un collège qui est une classe de primo-arrivants, donc avec des âges mélangés. Voilà, donc là on a le début du chantier. En fait, pour expliquer peut-être d'abord ce que c'est que l'anamorphose. Une anamorphose, c'est un dessin qu'on voit seulement d'un point de vue. Donc là, c'est au sol, mais ça pourrait être ailleurs. Enfin, ça pourrait être en volume. Donc là, le principe, c'est qu'on a, d'où sont prises des photos, c'est le point de vue duquel on voit. Donc là, on a vu déjà ce qui est écrit. Donc il y a le mot ici qui est écrit. Ça, ça a été développé avec les jeunes du collège. Et donc on a dessiné au sol de nuit, comme vous venez de voir. Et ensuite, donc avec Mathieu, on a commencé à travailler, à préparer la terre. Donc là, on a les jeunes du coup, qui sont venus travailler avec nous.
Une classe de primo-arrivants, donc c'est des jeunes qui viennent d'Angola, Roumanie, Albanie, etc. Quoi. Donc il y en a plein qui parlent français, et on parle beaucoup aussi avec les mains.
Et ce qui était intéressant aussi, du coup, vu que... Il y a plein de jeunes qui savaient déjà, qui n'avaient pas du tout, pour le coup, peur de la terre et qui savaient déjà faire pas mal. Et, donc il y a eu plusieurs étapes. On a préparé la terre, semé, planté. On a fait un paillage. Et voilà, ce qui était vraiment intéressant, c'est le mélange d'une proposition artistique, parce que c'était aussi leur expliquer ce qu'est une anamorphose. Et choisir ensemble, et ensuite vraiment avoir un travail de terrain. Voilà. Ça a été réalisé au printemps dernier.
Super.
Merci.
La durée du chantier.
On posera les questions après. Gardez vos questions. D'accord. Maintenant, le clos Saint-Benoît.
On voit des sujets rapidement, mais il y a un temps. Hein.
Bonjour, Benoît Vallet, je suis un habitant de Lyon depuis 10 ans maintenant. Je vais présenter le témoignage du jardin de la vieille Benoîte, sa dernière acception, son dernier petit nom. Ça s'est passé comme ça. J'ai atterri dans le premier arrondissement à la rue de la Vieille contre la Saône. Et je cherchais un petit bout pour jardiner parce que j'avais vraiment envie. Et donc je suis arrivé dans ce point-là. Donc en fait on voit le terrain depuis le haut, mais on ne peut pas y accéder. Et c'est au fond d'une J'ai la place qu'on tombe dans ce secteur-là, avec plein de grilles et puis une terrasse au-dessus, on ne sait pas comment y mettre les pieds. Et il y a un escalier et tout, et en fait, en y montant, il y avait en fait au départ un coin de forêt, le rocher, tout ça, une espèce de coin à l'abandon. Et je me suis mis à dire, bon, je vais mettre un peu de graines en coupant des arbres un petit peu pour qu'il y ait la lumière. Et on s'est retrouvé en fait à plusieurs à le faire, avec un couple de personnes à la retraite qui étaient aussi sur ce même projet, et on s'est rencontrés là-haut. Et on s'est dit, et un jour on a vu que tous les arbres étaient coupés. Alors on s'est dit, bah chouette, on va retirer les souches, on va cultiver ensemble. Et on a rencontré Nadera qui cherchait à héberger sa petite tortue. Et donc, le jardin, c'est construit comme ça. Alors ce qui est magique sur cet endroit-là, c'est qu'on est dans un site où une abbaye bénédictine venait d'être restaurée, où il y a le rocher de la Croix-Rousse avec son âme, où il y a une source avec les eaux de la colline, où il y a des ruines, des rochers, tout ça. Et ça donne une ambiance très très sympa.
Oui, donc. Non, comme ça me forcera à pas être trop bavarde. Donc, effectivement, c'est un jardin qui est. Il n'y a pas besoin d'être historien pour arriver et sentir l'âme du jardin. Il y a une vraie histoire. On sent que. Enfin, il y a une histoire d'habitants, il y a une histoire associative, il y a une histoire plusieurs fois millénaire. Il y a les. Il y a les Gaulois, les Romains, il y a la Révolution des Canuts, il y a les artistes qui sont arrivés ensuite. C'est tellement riche d'histoire que quand on arrive dans le jardin, on n'est pas insensible, quoi. Et moi, c'est mon premier coup de cœur à Lyon. Donc, je venais de ma Lorraine, ma région minière, noire de charbon. Et j'arrive à Lyon, donc déjà, pour une histoire d'amour. Et mon amoureux me ramène sur ce terrain parce que il cherchait un endroit pour héberger sa tortue. Et là, je tombe doublement amoureuse du terrain et puis des gens qui le fréquentent, ce couple d'artistes japonais à la retraite, de Benoît et de son chéri, et aussi des gens qui ont peur autour, on revient sur la peur, et qui font « Ah, mais quand même, vous n'allez pas être des squatteurs, nous ça fait des années qu'on pose des dossiers pour en faire un jardin pédagogique, vous venez, vous passez au-dessus de la grille, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais est-ce que vous avez une autorisation ?» Et puis on était, je sais pas, nous on s'est senti appelés en fait par cet endroit, quoi, parce que on est en plein, on n'a pas fait exprès d'être là. Et en fait on s'y sent bien. Puis à la limite, le truc le plus scandaleux qu'on voudrait faire sur ce terrain, c'est de faire pousser des tomates. S'il vous plaît, est-ce qu'on a le droit de faire pousser des tomates? Donc là, on est parti sur une longue guérilla urbaine, d'une certaine manière, et c'est là où on s'est reconnus avec Brindy et puis Page Jardin, qu'on nous a présenté ce qui s'est passé dans les années 70 et Friche Urbaine. Et nous, on a juste eu le sentiment d'avoir un appel à ce petit terrain de terre et de se dire, collectivement, c'est interroger les gens, qu'est-ce que vous faites là? On gratte la terre. Donc c'est marrant parce que autant ça plaisait à des gens, autant ça faisait peur à d'autres. Et ça, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit habitants, élus, associatifs, on n'a pas eu plus d'élus qui ont eu peur que d'habitants, c'était tout le monde, toutes les classes d'âge, tous les représentants ont eu soit un coup de cœur, soit mon Dieu, qu'est-ce que vous faites, quoi.
Voilà, je pense que c'est... Ouais, okay.
Alors au départ, c'est vrai qu'on a un quartier où on rencontre les gens. On a tendance à rencontrer les gens de la même catégorie socio-professionnelle ou qui ont les enfants du même âge ou autre. Et là, ça nous a permis de rencontrer des mamies, de rencontrer des commerçants. Ça permet vraiment de créer du lien, de se rencontrer. Et c'est clair et net que sans le jardin, on n'aurait pas rencontré tous ces gens. C'est des petits terrains, c'est pas le stade de Gerland, c'est pas la Confluence, c'est pas un truc qu'on va projeter comme publicité de la ville de Lyon. Et pourtant, si. vrai qu'à l'échelle de la ville, ça peut paraître ridicule, c'est des micro-parcelles. Mais à l'échelle du quartier, c'est super important. Et si cette petite chose, elle pousse là partout, c'est ça qui crée l'identité d'un quartier.
En fait, on voyait sur ce terrain qu'on a essayé de répondre aux différentes demandes. Parce qu'en fait, quand on s'est retrouvé là, on s'est retrouvé un peu privilégié. Et en même temps, on a eu la sensation de devoir protéger ce lieu. Parce que comme on est dans une zone très dense, alors j'ai appris au cours des temps que la Croix-Rousse, c'est, en densité, c'est l'équivalent, enfin, c'est le quartier le plus dense d'Europe. C'est l'équivalent de la banque de Gaza, donc entre les canuts, les ruelles, etc. Donc très très peu de lieux où on peut encore faire des choses. Et celui-là, il était bouclé parce qu'il y avait un projet de parking sur 3 niveaux. Et du coup, ça avait été voté il y a plusieurs années. Et comme on n'était pas sûr de le faire, ça coûtait cher, mais en même temps, ça plaisait aux habitants, etc. Bon, je vais couper, voilà. Bon, bref. Du coup, le temps de se battre administrativement pour officialiser le truc, on a copié sur Brindy, on a Bernard Marais qui nous a aidés pour faire les petits jardins de quartier. Et voilà, on va arrêter là parce qu'il y a plein de gens qui ont des choses à dire.
Merci. On passera aux questions après.
Je vais juste en fait rajouter une chose sur ce témoignage. C'est qu'on est sur un lieu où il y a de la vieille pierre, où il y a le rocher de la Croix-Rousse, et il y a une dimension spirituelle sur le lieu qu'on a senti tous et qu'on veut faire perdurer. C'est pour ça qu'il y a des photos sur une cérémonie que vous avez vue, où des gens étaient autour d'un endroit. C'est que l'artiste japonais est décédé au Japon d'un cancer, et sa femme a tenu à ce qu'on fasse un espace pour lui, et une partie de ses ossements repose sur le lieu, même si c'est pas légal, ça s'est fait tout seul, et ça, c'est une trace de cette spiritualité qu'on vit aussi dans le jardin. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter.
Merci. Saint-Paulin, j'arrête.
Dominique Serre, moi je travaille au centre social de Saint-Paul-en-Jarret, donc je suis responsable du secteur adulte-famille. Le jardin partagé des pins se situe sur la commune de Saint-Paul, donc 4200 habitants. En juin 2010, une rencontre entre le bailleur, le toit forésien et le centre social fait émerger l'envie d'élaborer un projet commun pour agir sur le quartier et particulièrement sur les relations entre habitants. À l'automne 2010, on se réunit le premier comité de pilotage pour préparer le projet avant de déposer à plusieurs financeurs. En février 2011, une réunion publique est mise en place, un groupe de jardiniers s'est constitué, un chantier jeune a mis en forme le terrain, les premières plantations ont lieu au mois de juillet. Donc là, c'est l'histoire. Je passe la parole à Muriel Fleuret, qui fait partie du groupe de jardiniers, et qui va vous lire un texte que les jardiniers ont écrit lors de l'inauguration du jardin.
Bonjour, messieurs, dames. Au commencement, un terrain privé, inoccupé, du bailleur, des personnes volontaires, des enfants souriants, beaucoup d'aide, d'un jardinier sympathique, du centre social et des subventions. Ensuite, au fil des réunions, des visites d'autres jardins, nous avons pu nous projeter dans notre projet de jardin partagé. Le chantier jeune, encadré par des éducateurs, a réalisé la mise en forme du terrain. Il y a eu des moments très difficiles, des problèmes relationnels, mais nous avons su surmonter tous les problèmes en se serrant les coudes. Avec beaucoup de travail, de joie, d'humour et dans une ambiance conviviale, nous avons récolté nos premiers légumes avec fierté. Ce jardin a permis de renforcer les liens entre habitants et c'est un plaisir de s'y retrouver. Nous avons une devise qui est « Notre jardin convivial, naturel et diversifié est cultivé dans la joie et la bonne humeur ».
Alors, il y a le jardin proprement dit où les jardiniers donc cultivent, et là, ce sont les bacs que l'on voit sont au pied des immeubles. Et ils font partie aussi du jardin partagé, ils sont plus entretenus avec Madame Lambert, qui est la doyenne du groupe, parce qu'elle a quand même certaines difficultés, elle ne peut pas monter seule au jardin, parce que c'est assez pentu. Donc elle s'occupe des bacs à fleurs qui sont au pied des immeubles avec les enfants du quartier. Alors, donc quand elle veut monter, ben, elle monte avec nous, on la prend sous le bras et hop, on la fait grimper. Donc là, c'était voilà, du jardinier. Enfin, c'était lors d'inauguration.
On se demande comment s'appelle ce jardin.
Le jardin partagé des pins. Parce que c'est la résidence, c'est la résidence des pins. Donc voilà, donc ils ont donné le nom du quartier. Et là, c'était donc cet été, c'est la pose du toit face à notre cabane.
Merci. Merci. Alors, des questions? Donc toujours le même principe, on se présente, on dit d'où on vient, et on peut parler après.
Je m'appelle Marjolaine, je viens de Belgique. Je m'intéresse à ce qui s'est vraiment passé au jardin de Benoît, entre le groupe qui a en gros squatté le lieu, et le groupe qui agissait depuis un bout de moment pour obtenir le terrain de manière plus légale. Donc ça s'était joué sur un coup de cœur, mais ça m'intrigue en fait parce que je pense que ça aurait dû frustrer les gens qui ont essayé depuis un bon moment d'obtenir ce terrain et comment ça a été résolu relationnellement parlant avec eux.
Elle me prévient un petit cours. Donc, oui, non, on rentre en plein dans les relations humaines et c'était compliqué. Oui. Donc, du coup, nous, on a essayé de faire preuve du plus d'ouverture d'esprit possible en se mettant à la place, oui, on est les petits jeunes, oui, on arrive, oui, on n'est pas né à la Croix-Rousse, oui, on n'a pas fait la révolution des Calus, mais quand même, on est là et on a envie, donc vous ne voulez pas qu'on travaille ensemble. Et du coup, on a essayé, tant bien que mal, des fois ça allait moins. Du coup, dans la devise, c'est un jardin partagé et pédagogique. Après, ça tombait bien parce que moi, de métier, je suis enseignante. J'étais comédienne aussi. Et pour moi, c'était très important de garder cet aspect-là pédagogique. Et finalement, de fil en aiguille, ils ont fini par comprendre que pour avoir un jardin pédagogique et l'ouvrir aux enfants, il faut déjà des jardiniers. Et que les jardiniers, ce ne seraient pas des employés de la ville, mais que ce seraient des habitants bénévoles qui jardineraient à l'année. Et que les adultes de la ville, eux aussi, ils avaient besoin d'apprendre parce qu'ils étaient nés dans la ville et qu'ils ne savaient pas jardiner. Et du coup, le pédagogique, on l'a élargi des enfants aux plus grands. Et finalement, voilà, on s'entend entre voisins. Petit à petit, ça va de mieux en mieux. Donc, juste termine, la conciliation, c'est que comme elle était assez sur l'ouverture musicale, du coup, on a dit, voilà, on jardine et le jardin, il ne nous appartient pas. Il est ouvert, vous pouvez animer des animations avec les enfants, etc. Mais concrètement, elle voit bien que les jardiniers offrent plus d'animation aux enfants, finalement, qu'elle en faisait jusque-là. Ouais. Donc, ça se passe pas trop mal, au final. Ouais.
Merci. Claude, je viens de Bourg-la-Gentale, dans le sud de la Loire. Je voulais poser une question à propos des jardins du Crêt-de-Roc. Vous avez dit que c'est une terre polluée, donc vous ne pouvez pas cultiver directement sur cette terre. Et vous surélevez les parcelles par des caissons de 40 cm de haut, j'ai bien compris. Mais j'en ai vu aussi de 15 ou 20 cm de haut. À mon avis, la racine ne s'arrête pas à 15 cm en disant « il ne faut pas que je descende plus bas ». Mais ce que je voulais vous demander, c'est... est-ce que vous envisagez de dépolluer la terre polluée au moyen de plantes dépolluantes qui, j'ai appris que ça existe. Merci.
Alors, une réponse technique à une question technique. On a effectivement des bacs de culture surélevés. Dans les premières images que vous avez vues dans le jardin Saint-Lingros, on a des profondeurs de 90 à 110 cm. On a des bidimes au fond. Donc on a des toiles géotextiles qui sont en fond de ces surfaces de culture qui normalement vont empêcher les racines des légumes d'aller dans les zones qui vont être les plus polluées. Après, le bidime, parfois il y a des racines qui passent à travers. On sait, alors moi j'ai, pour la petite histoire, j'ai fait faire réaliser des analyses dans des jardins familiaux de Saint-Étienne à Côte-Chaude. À des endroits où on a des terres remblayées, rapportées, etc., tout est mélangé. Bon, il se trouve qu'on a, dans la plupart des terres stéphanoises, on a des métaux lourds. On a aussi de l'arsenic qui est présent naturellement dans ces terres-là. Lorsqu'on a fait faire ces analyses sur les terrains des jardins familiaux de Côte-Chaude, on a trouvé du plomb, qui qui dépassaient les seuils bon, réglementés, etc. Là, il faut avoir une analyse très très fine de ces... il faut avoir une explication très fine de ces analyses. La plupart du temps, quand on cultive des légumes destinés à manger, à être mangés, on fait des amendements. Tout le monde me suit ? Donc on met du compost, on met du fumier déshydraté, du fumier, etc., des engrais plutôt organiques. Normalement, la plante, elle va aller chercher ce dont elle a besoin à proximité de ses racines. Hein, donc si on amende ces cultures, ça c'est l'explication que j'ai eue par les bureaux d'études, si on amende nos cultures, il n'y a pas de raison que les plantes aillent chercher les métaux lourds et des substances potentiellement qui peuvent se fixer dans les organismes, etc. Après, c'est un choix. Nous, on le dit aux gens qui participent au jardin. Et ensuite, pour répondre à la deuxième question, est-ce que vous envisagez de dépolluer ? Alors nous, enfin moi, je représente des groupes d'habitants. En tant que groupe d'habitants, on n'a pas vraiment les moyens de dépolluer ces sols. Alors après, il faudrait qu'on fasse des expérimentations avec des plantes dépolluantes sur des petites parcelles. Et là, ça demande des moyens assez importants. Par contre, l'établissement public d'aménagement, donc là, c'est des grosses boîtes, hein, de Saint-Étienne, a dépollué un site qui s'appelle la cartonnerie. Là, il y a eu des techniques de dépollution où on glisse des bâches sur des très très gros volumes de terre et par oxydation, on arrive à piéger les métaux lourds grâce au charbon actif. Voilà, c'était pour la petite histoire. Et pour la question des sols pollués, là, je pense qu'on est quand même plus sur le fonctionnement des jardins partagés, comment ça marche, comment ça se construit, comment ça s'imagine. Voilà, donc s'il y a d'autres questions aussi, bienvenue. Mais on pourra peut-être parler à côté.
Benoît Vallet, donc, je voulais en fait réagir à la... donner une petite suite à la seconde question. J'ai été de plein fouet touché par la confrontation avec les antagonismes de projet, justement. C'était difficile personnellement, mais surtout, on a eu l'aide précieuse d'une... l'accompagnement du Pas Jardin nous a beaucoup aidé quand même, parce que ça nous a permis d'accompagner le projet dans la durée et dans la conciliation. Et notamment le fait qu'il y ait une nouvelle élue à l'environnement, dans le quartier, qui a permis de vraiment huiler les rouages, c'est ça qu'on dit. Voilà, Emeline Baum, et elle a permis de mettre en place les choses et de lisser tous les projets d'un côté et de l'autre. Emeline Baum, c'est une élue. Dans le premier arrondissement, en fait, à l'environnement et au cadre de vie. Ouais, c'est ça, délégation espace vert. Je ne connais pas les termes précisément. Désolé. Voilà. Donc, c'était pour dire que c'était vraiment fait important. Et c'est grâce à elle que les choses ont pu se mettre en place et aboutir au jardin officiel.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres réflexions ?
Oui.
Bonjour, Fabien Dubois, je travaille à la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc moi en fait je découvre un petit peu tout ce qui s'y passe là, les jardins, tout ça. Je fais un peu une découverte et une très agréable découverte parce que bon, on travaille déjà avec des jardins. On travaille quand même avec l'Antilly, avec la commune de l'Antilly, là, la mare par exemple, c'était une des actions qu'on a faites. Je trouve que malgré les contraintes qui ont été évoquées, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau technique, au niveau autorisation, etc. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de positifs dans tout ce que chacun fait. Nous, on travaille de plus en plus avec... juste un petit rappel, la Ligue pour la protection des oiseaux, c'est pas que les oiseaux. On protège la biodiversité et les milieux. Et en fait, tout ce que vous faites, c'est tout à fait ce que l'on essaye d'accompagner et de rechercher en milieu urbain comme en périurbain. Et on travaille beaucoup dans l'accompagnement... justement des jardins, parfois pour l'aspect auxiliaire, l'aspect comment inviter la faune, comment dans les jardins, etc. On a aussi la campagne, pour ceux qui connaissent, des refuges, les refuges LPO de France. Et du coup, on essaye de mettre en place des actions avec les jardins. Et je voulais juste en fait féliciter en fait toutes les actions que j'ai vues, tous les jardins, toutes ces créations, l'aspect artistique. Nous aussi, on se met maintenant à faire des mares. Avec des formes particulières et artistiques, on découvre plein de choses et on aimerait justement, donc ma présence ici entre autres, ça aurait été aussi de pouvoir dire, ben voilà, on est là et on aimerait bien aussi travailler avec vous, faire un maximum de choses et d'actions, parce que cet aspect environnemental, vous le portez beaucoup au niveau de, moi j'appelle ce que vous faites, ce sont aussi des poumons verts pour les arrondissements, pour les villes. C'est très important. Nous, on travaille beaucoup sur la notion de corridor écologique, sur les trames vertes. C'est une notion qu'on n'a peut-être pas forcément abordée encore, mais je trouve que c'est quelque chose que vous portez très bien. Donc, bravo à tous et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble.
Alors, encore deux interventions et après, on passera au potage d'idées.
Merci. Donc, Ayoub, toujours de Petit Jardin de la Soleil. Une toute petite question sur la durée et peut-être la masse horaire, j'allais dire, de travail qui a permis de donc faire aboutir votre projet d'intégration et peut-être de participation. Une belle porte d'entrée pour ces gens-là qui viennent en France.
C'est pour la même chose, c'est
ça?
Alors, je vais commencer à répondre, peut-être Mathieu, si tu as des choses à rajouter. Mais il y a eu une première phase de préparation du terrain qui a duré 2-3 jours, à peu près. Vraiment pour préparer le terrain. En fait, il y avait de la terre végétale aussi qui était là, qui avait été ramenée. Du coup, pour préparer, vraiment préparer le sol. Et avec l'anamorphose, il fallait vraiment avoir un terrain plat. Enfin, au plus plat possible. Donc on a quand même passé un peu de temps à essayer d'aplanir le plus possible. Et ensuite, on a passé, pour expliquer un peu le déroulé du chantier, on a passé une soirée à tracer au sol, à faire le dessin. Et le lendemain, on a repassé une journée à délimiter les espaces. Et ensuite, après, ça s'est fait en plusieurs temps avec les jeunes. Il y a eu des moments aussi d'intervention au collège. Moi qui suis intervenue par rapport à l'anamorphose et Mathieu qui est intervenu par rapport au jardin, au végétal. Et ensuite, on a eu deux temps, deux après-midi sur le terrain avec les jeunes. Voilà. Et puis plus, après, ce qu'il faut voir, c'est après pour toute la suite, comme on était dans un jardin partagé avec déjà un fonctionnement avec des habitants qui venaient s'occuper du jardin, les fleurs qu'on a plantées, l'arrosage, tout ça, ça a été aussi surveillé par la gestion globale du jardin.
En tout cas, pour les jeunes, il y a eu 10 à 15 jours peut-être de...
Pour les jeunes, moins, parce qu'on a eu on a dû avoir 1, 2, 3, 4, 5 après-midi pour les jeunes concrètement ensemble vraiment.
Je vais compléter la réponse simplement.
Donc, pour compléter la réponse de Magali, il ne faut pas oublier que ça a été fait dans le cadre des CUCS, avec le partenariat avec Virginie Reynaud, qui représente la ville de Saint-Étienne, sur le quartier du Crédit Europe, dans le cadre des projets passeurs de culture. Voilà. Donc là, c'est une enveloppe de 1000 euros pour faire ça. Après, quand on vous dit, voilà, on a eu 15 jours pour le faire, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas forcément les financements en face d'une réalisation comme celle-là. L'intérêt, c'est aussi de travailler avec des élèves qui sont des primo-arrivants et une enseignante qui est motivée pour venir sur le jardin avec ses élèves et être au contact, en fait. Et puis après, c'est une équipe, c'est un noyau de jardiniers, d'habitants qui entretiennent cet espace. Juste pour terminer sur l'anamorphose, cette année, il y a un projet pour 2013 de plantation de fleurs. On va produire des fleurs. L'idée, c'est de faire des fleurs à couper pour que les gens viennent ramasser des bouquets. Hein, et qu'ils puissent repartir chez eux avec un petit bouquet.
Voilà. Oui, bonjour. Roger Fréty, donc je suis local de l'étape. Je suis un militant d'écologie politique. Je suis le seul élu écologiste de Givor actuellement. Je suis élu depuis 2001. Bon, d'abord, je profite de cette occasion pour écouler mon stock du journal L'Âge de Fer. Donc, allez-y, ce sont des vieux numéros, mais si vous voulez participer à l'achat, vous pouvez, sinon vous les emmenez, ne vous gênez pas. Bon, deuxièmement, je voulais vous faire part d'une réflexion qui est la mienne, parce que en tant qu'élu de Givor depuis toujours, depuis 2001 au moins, je porte tout ce qui est présenté aujourd'hui sans succès. Alors je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi ? Alors la première action, c'est de dire, bon, ben, c'est à cause des élus, ils ne sont pas bons. Voilà, bon, je remercie d'ailleurs qu'on ait cité le nom d'Emeline Baume, bien entendu. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, c'est pas seulement ça, parce que, bon, si les élus sont comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et donc, à Givor, on est dans une vieille cité ouvrière, en crise depuis des années. Et cette culture ouvrière, elle imprègne encore, pendant des années, elle a imprégné, elle imprègne encore fortement la société givordine. Et quand on était de cette culture ouvrière, on avait en particulier deux espoirs. C'était pouvoir se passer du jardin, ne plus en dépendre, faire 8 heures ou 10 heures à l'usine, et puis encore faire le jardin en plus, non, le progrès, c'était pouvoir enfin aller à Carrefour. Et la deuxième chose, c'est une autre dimension, mais la réflexion est la même, c'est quand on voit un élu vert porter, par exemple, le déplacement doux et la bicyclette, on dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il vient encore nous faire, lui ? C'est vraiment des préoccupations de bobos, ça. Nous, on peut, grâce au progrès social, on peut enfin échapper au vélo et avoir une voiture. Donc il faut avoir cette réflexion que jusqu'à présent, cette dimension présente aujourd'hui, ça paraissait réservé à ceux qui avaient déjà, j'allais dire, les moyens. Or le problème, c'est que, je pense que vous partagerez avec moi, on est dans un contexte où les choses changent et que la question de se nourrir, mais vraiment se nourrir, elle est posée aujourd'hui. Et donc j'espère que vont se rencontrer toutes ces démarches qui semblaient loin de la volonté de se nourrir avec la nécessité de se nourrir aujourd'hui. J'espère qu'enfin ça va déboucher. Et à Grigny, donc, ça démarre, hein, et ça démarre d'une manière très sociale, puisque c'est Laurent Servonnet qui était là tout à l'heure en tant que président du centre social, qui a commencé à faire un jardin partagé en plein milieu d'une cité, je dis même plus ouvrière, parce qu'il n'y a plus d'ouvriers, tout le monde est au chômage. Donc avec des mamans étrangères, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est extraordinaire. On a parlé tout à l'heure d'une classe de primo-arrivants. J'ai enseigné pendant 30 ans dans une classe de primo-arrivants. Et c'est la désolation de voir ses parents déracinés, qui on n'arrive pas à donner un rôle social. Et grâce les mamans turques, par exemple, il faut voir le potentiel qu'il y a. Donc voilà, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je voulais le dire. Merci à vous.
Bonjour, Charlotte Gros. Je reviens de Montréal, où j'ai participé à de nombreux jardins partagés, jardins communautaires. Et justement, pour aller dans le sens de monsieur, une des caractéristiques des jardins communautaires à Montréal, c'est d'être extrêmement ouvert et qu'il y a beaucoup de nouveaux migrants, nouveaux arrivants, qui s'installent dans ces jardins et qui savent très souvent très bien cultiver. Il y a beaucoup de gens qui viennent du Bangladesh et qui ont des capacités pour le jardinage exceptionnelles. Et c'est aussi, effectivement, pour une façon de compléter leur alimentation. Donc c'est très important pour eux. Je me demandais, pour les différents intervenants, j'ai trouvé qu'en France, très souvent, les jardins partagés étaient quelque peu fermés. Bon, on avait des exemples quand même avec une ouverture pour aller vers des publics plus difficiles à intéresser à ces questions-là. Je me demandais si vous aviez mis en place des actions ou des choses pour essayer d'aller intéresser des publics qui ne viendraient pas a priori. Parce qu'il y a déjà, je sais qu'il y a déjà une forte pression sur beaucoup de jardins avec beaucoup de gens, on va dire peut-être un peu qualifiés de bobos, enfin, même si je ne pense pas que ce soit forcément péjoratif, qui veulent rentrer dans ces jardins. Donc souvent on a affaire à une liste de 20-30 personnes en attente pour rentrer dans le jardin. Et donc du coup, j'imagine qu'on a du mal à aller vers d'autres personnes d'aller chercher des gens qui a priori ne s'intéresseraient pas à ces jardins.
Alors, il va falloir quand même qu'on arrête. Il y a plein de choses intéressantes qui sont en train de se dire. Il y a du monde. Il y a Béatrice qui veut aussi. Chacun son tour. Alors après, j'ai vu qu'il y avait une main là, après au-dessus, et je pense qu'après qu'on arrête parce qu'on a encore plein de choses à faire.
Oui, moi je voulais juste préciser qu'il y a deux projets en cours actuellement à Givor. De jardins partagés, donc il y a des choses qui bougent. Un à la cité Jules Vallès avec les centres sociaux et un autre avec l'OPAC du Rhône dans les logement des étoiles de Renaudy, où il y a beaucoup de jardins en terrasse, pour le coup, qui n'étaient peut-être pas tellement appropriés par les locataires de l'OPAC, et donc il y a eu un travail de sensibilisation auprès des locataires fait avec l'OPAC. Donc voilà, petit à petit, même dans tous les quartiers, on espère que ça se développe.
Ah.
De mettre en place sur Saint-Étienne, pas forcément au jardin de prière, mais c'est le chantier ouvert. Hein? Le chantier ouvert, en fait, c'est démarrer un chantier avec bon, des petites enveloppes, et le fait d'avoir la présence, bon, moi je prêche un peu pour ma paroisse, mais le fait d'avoir la présence d'un jardinier animateur, l'idée c'est d'accrocher les gens et puis de construire le groupe pendant le temps du chantier. Du coup, il n'y a pas de phase de concertation, mais ça part tout de suite plutôt sur du concret. Voilà, on inverse un peu les choses, mais ça n'empêche pas la discussion pour la suite.
Bonjour, donc je suis Marie-Pierre Cher, je travaille au Centre social et culturel de Grigny. Donc j'ai la chance d'accompagner ce projet de jardin partagé au cœur du quartier du Vallon. Je voulais juste compléter le propos de tout à l'heure. C'est qu'en fait, oui, le Centre social est porteur de ce projet, mais on a beaucoup travaillé en collaboration avec la politique de la ville, mais pas que. Il faut aussi citer le bailleur, un lien d'habitat, qui est vraiment partie prenante de ce projet. Et le démarrage du projet a vraiment commencé l'écriture à trois mains, on va dire. Ça, je tenais à le repréciser parce que c'est très important qu'on travaille tous en collaboration pour faire aboutir de tels projets. Donc, voilà.
Donc, moi, je travaille pour le bailleur Aléa d'Habitat, Amandine Ducarou. Je suis agent de développement local pour Grigny et sur Givors également. Donc on a deux jardins partagés, un sur Grigny et un sur Givors, sur le territoire des Vernes. Voilà, donc la question de la mobilisation des publics un peu compliquée, qui n'irait pas forcément vers les jardins, se pose. On est vraiment en plein dedans. C'est compliqué, mais pas à pas on y arrive et on se rend compte finalement que les gens sont aussi intéressés que sur des quartiers, comme vous l'avez dit, beaucoup. Voilà.
Dernière intervention.
Alors moi, je suis Pauline, en service civique à l'atelier des Friches. On a un jardin partagé dans le quartier de Jarlon à Lyon. Et donc ce jardin, il se situe au cœur de la Cité des Jardins, qui est un ensemble de logements sociaux gérés par l'OPAC. Et donc on touche aussi des populations plutôt défavorisées. Le jardin est aussi situé juste en face des bains-douches de ce quartier-là. Et donc la question de comment s'adresser au public défavorisé, on est vraiment en plein dedans. Et en fait, le jardin fonctionne. C'est principalement des femmes qui jardinent, mais elles sont à peu près une quinzaine, ça tourne. Et en fait, nous, notre mission, c'est vraiment parce que en fait, les personnes qui ont lancé ce projet-là se sont rendues compte qu'il n'y avait qu'une infime partie de la population qui était touchée par ce projet. Et donc, nous, notre rôle, c'est de toucher tout le monde. Et ça fonctionne, mais c'est clair que c'est un travail de longue haleine. Et pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les gens directement. Concrètement, on fait du porte-à-porte. On va voir les gens chez eux pour leur expliquer. Et on se rend compte qu'il y a des appréhensions parce que ça semble être un projet qui appartient à une association. Il faut faire partie d'un certain groupe, il y a un certain engagement à avoir qui souvent effraie les gens. Donc moi je pense que c'est en bonne voie et que j'espère que notre travail est utile. Mais je suis convaincue que pour ça, il faut aller au contact direct des gens. En fait, quand on est face à des gens qui ne savent pas forcément lire, ben, le fait d'avoir simplement une affiche qui explique sur le jardin, c'est pas suffisant. Donc voilà.
Merci. Voilà, nous avons fini avec les utopies jardinières, mais on continuera cet après-midi. Alors là, maintenant, on va aller sur comment on va mettre votre grain de sel. La parole à Joël Imbert.
Bonjour à tous. J'espère qu'on n'a pas fini avec les utopies jardinières, juste avant. Donc, je vais vous parler du potage d'idées qu'on avait prévu pour cet après-midi. Et pour réaliser ce potage, il nous faut des ingrédients. Alors, j'ai déjà plein d'ingrédients dans le panier. Ça ne ressemble pas trop à des légumes, mais ces ingrédients, il va falloir que vous les agrémentiez. Donc en fait, on va vous demander de faire vous-même ces ingrédients pour les mettre dans la grande soupière qui sera dans la grande salle en allant vers le repas. Et pour réaliser ces ingrédients, on va vous demander d'écrire
un questionnement et un point de vue sur la thématique du jour, que je vais donc vous répéter, qui est utopique et utile, des jardins partagés pour nos territoires. Donnez-nous un questionnement et un point de vue sur cette phrase que vous allez écrire chacune sur un post-it, en faisant une idée par post-it. C'est bien important, parce qu'il faut qu'on les
classe. C'est bien écrit en gros, là.
Voilà, une idée seulement par post-it, en écrivant au feutre, avec les feutres qu'on va vous donner pour que ça puisse être écrit gros, et qu'on puisse les lire de loin. Et ces ingrédients donc, que vous aurez faits sur chacun des post-it, on va vous demander de venir les poser sur les tables qui sont autour de la grande soupière que vous verrez dans la grande salle, en essayant de les regrouper par thématique. Donc de faire déjà, de pré-mâcher le travail, en essayant de regrouper les post-it entre eux, parmi ceux que vous voyez déjà sur la table, d'essayer de coller le vôtre par rapport à d'autres post-it qui représentent la même thématique. Voilà, est-ce que j'ai été clair? J'espère que toutes les idées qui étaient en cours, des gens qui n'ont pas pu intervenir ce matin, pourront être transmises par un post-it et par un ingrédient dans la grande soupière, et qu'on pourra constituer ainsi le gros potage d'idées cet après-midi.
Alors, pendant que vous mettez votre questionnement et votre point de vue, je vais passer la parole à M. Pelligrat qui va vous parler du film qu'on est en train de tourner.
Oui, bon. En quelques mots, donc, on a tourné les deux précédentes assises nomades, et celle du 2 février puis celle d'aujourd'hui, à destination d'un film qui sera montré lors du rassemblement des assises à la région. Voilà, ce sera un film d'une demi-heure, donc je suis déjà très frustré parce qu'aujourd'hui, il y a déjà matière à faire un film de 2 heures. Et puis, je voulais ajouter aussi que je suis tout à fait rassuré, parce que quand on vit comme moi en zone rurale, où on observe la disparition des postiers, on voit apparaître des compostiers, donc c'est vraiment rassurant.
Donc, vous remplissez bien vos deux post-it, et après vous avez seulement le droit de vous lever par an pour aller partir au repas partagé, et vous pensez bien à poser vos post-it auprès de la marmite, et on se retrouve au buffet. Donc c'est de l'autre côté de l'accueil, c'est une autre salle qui est de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc on se lève que quand on a écrit son point de vue et son question, sa question. Donc c'est bien, utopie et utile, des jardins partagés pour nos territoires. Il faut un point de vue, une question. La voix. Alors, vous voulez que je vous donne des exemples de points de vue? Ben, il faudrait vous inspirer de ce qui s'est passé ce matin. Enfin, essayez de vous inspirer de ce qu'on a entendu. C'est ce que vous avez envie. Moi, je ne peux pas vous influencer. Hein.
C'est bon.
Je précise aussi qu'on récupérera les feutres à votre sortie.
Comme c'est petit.
Je ne dirai pas au bénéfice de qui.
Alors, une affirmation.
Donc on se retrouve au repas partagé jusqu'à, si je ne me trompe pas, 14h, c'est ça ? 14h. On reviendra ici pour la présentation du diagnostic par le cabinet Argos. Hein. Et après, nous repartirons dans la salle où il y aura 6 ateliers avec 6 thématiques qui vont ressortir de vos, de votre grain de sel. De vos 2 grains de sel.
Je vous rappelle que les post-it sont accolés sur les tables qui sont dans la grande salle à côté de la soupière. Vous repérez bien la soupière.